Musique au présent, une émission mensuelle de conçue et présentée par Benjamin Douchonnet. Alors le mois de septembre, c'était le mois de la liturgie juive, avec les fêtes évidemment, musique chantée, et j'avais très envie de continuer avec la musique chantée pour le mois d'octobre. J'ai travaillé pendant tout le mois d'octobre l'opéra. Alors j'ai envie d'abord de vous donner un petit panorama de l'opéra depuis le début jusqu'à nos jours, avec un choix très 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 strict, parce qu'on ne peut pas tout dire, évidemment, il y aura beaucoup de manques. Ne m'en veuillez pas, beaucoup de manques. J'ai choisi ce que j'aime le plus, évidemment. Et puis pour terminer, je vous raconterai un petit peu ma vie par rapport à l'opéra. Comment j'ai vécu personnellement l'opéra. Alors tout commence évidemment tout à fait à la fin du XVIe siècle, 1598. Nous avons Jacopo Peri en Italie qui écrit un opéra, Daphné. Deux ans après, c'est Caccini, encore toujours en Italie, avec son opéra Euridice, un thème qui a été très 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 beaucoup utilisé par l'opéra. Et puis en 1607, c'est l'Orfeo de Claudio Monteverdi, qui va nous donner plus tard le retour d'Ulysse dans sa patrie et puis le merveilleux couronnement de Poppée. 17e siècle, il y a aussi le Louis, je ne vais pas insister sur le 17e, il y en a énormément. Je ne peux pas, ça prendra toute l'émission. Passons au 18e siècle. Au 18e siècle, il y a évidemment Vivaldi qui a écrit beaucoup d'opéras, parmi lesquels des opéras que j'aime énormément. Il y a eu Rameau, le français, Gluck, qui a écrit, encore une fois, le thème d'Orphée et d'Eurydice. Et puis Handel, 43 opéras. Il a passé la plus grande partie de sa vie en Angleterre. Il n'était pas anglais. Handel, 43 opéras. Et puis, le grand, le très grand, l'immense Mozart, l'enlèvement au sérail, le Noce de Figaro, Così fan tutte, Don Giovanni, évidemment, Don Giovanni, puis la flûte enchantée, enfin, Mozart, c'est un des plus grands compositeurs d'opéra. Passons au 19e, ça commence avec le Bel Canto, avec Rossini, le Barbier de Séville, la Cenerentola, les autres, Guillaume Tell. Et puis il y a Bellini, que j'aime particulièrement, parce qu'il a écrit un opéra que j'aime particulièrement, qui est la Norma, avec cet air que tout le monde connaît, qui est splendide. J'arrête, vous allez compléter vous-même, avec vos disques. Et puis il y a Donizetti, avec Lucia de la Mermoz. Et puis je mentionnerai aussi un autre de ses opéras, l'élixir d'amour, grâce à un air que j'aime particulièrement dans cet opéra. Una furtiva lagrima, etc., etc. Vous compléterez vous-même, évidemment. Nous avons les deux juifs, Meyerbeer et Halévy. Halévy avec la juive de Halévy avec cet air que tout le monde connaît, qui est sublime. Rachel, quand du Seigneur, la grâce est utile, etc. Alors j'ai une recommandation tout de suite à vous faire. Allez sur YouTube, cherchez Halévy, la juive, à Vienne, à l'opéra de Vienne. C'est Neil Schikoff qui chante l'air Rachel. Et vous allez écouter cet air par Schikoff et vous allez regarder. Et vous allez voir, ce sont des applaudissements à ne pas finir qui suivent l'air. Et vous aurez des larmes qui vont vous couler de vos yeux. Parce que c'est absolument magnifique. C'est un air d'opéra parmi les plus beaux qu'on puisse trouver sur l'ordinateur. Il y a Beethoven avec son opéra unique, Fidelio. Il y a le grand Verdi avec tous ses opéras, une quantité immense. Et surtout moi, mes deux préférés, c'est Nabucco à cause du sujet. Et puis, du point de vue musical, je trouve que c'est Otello qui est le plus bel opéra de Verdi. En Allemagne, nous avons Weber, nous avons Wagner, dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. En France, Massenet, évidemment, Massenet. Il y a Bizet avec Carmen, ce chef-d'œuvre absolu, l'opéra le plus joué au monde. Gounod, évidemment. Saint-Saëns avec Samson et Dalila, sujet biblique. Il y a Offenbach avec tous ces opéras légers. Toute sa vie, il a rêvé de faire un opéra qui va marquer, un opéra très sérieux qui va marquer. Et puis, Il a fini par le faire, cette opéra, avec la barcarolle. Le conte d'Hoffmann, opéra magnifique de Offenbach qu'il a réussi à faire avant sa mort. Au XXe siècle maintenant, au XXe siècle, quelques chefs-d'œuvre, il ne faut pas oublier, le XXe siècle a été riche. Il y a d'abord quelqu'un qui a commencé au XIXe et qui a continué au XXe jusqu'en 1949, c'est Richard Strauss, avec un ensemble énorme, avec Elektra, avec Salomé, avec Le Chevalier à la Rose, avec plein, plein d'opéras, l'un plus beau que les autres, etc., extraordinaire. Il y a Debussy, avec un des grands chefs-d'œuvre de l'opéra, c'est Péléas et Mélisande, extraordinaire. Il y a Poulenc, avec le dialogue des Carmélites. Il y a aussi, pour ceux qui aiment, Messiaen avec Saint-François d'Assise. Alors, je reviens en arrière un peu pour le 19e, j'ai oublié Tchaïkovski en Russie, toute l'école russe avec Tchaïkovski au 19e, Moussorgski avec son magnifique Boris, encore un très grand chef-d'œuvre de l'opéra, Boris Godounov de Moussorgski. Et puis, au 20e siècle, nous avons surtout les deux grands, c'est Chostakovitch avec son opéra Lady Macbeth de Mzinsk. Et puis Prokofiev, alors beaucoup d'opéras, mais Prokofiev, il y a un opéra que j'aime particulièrement, qui a inspiré une de ses symphonies d'ailleurs, L'Ange de Feu de Prokofiev, L'Ange de Feu de Prokofiev. Vous voyez, alors, tout ça, c'est d'une richesse extraordinaire. Ça, tout ça, c'était évidemment l'histoire de l'opéra, rapidement, une petite historique de l'opéra. J'ai laissé de côté beaucoup, beaucoup de choses, mais je vous ai donné mon regard panoramique sur l'histoire de l'opéra, c'est tout ce que je viens de vous dire. Ça, c'est comme ça que moi, je vois l'opéra qui me plaît le plus. Alors maintenant, je passe à quelque chose de très personnel, quelque chose d'extrêmement personnel. Vous savez, j'ai commencé à chanter à la synagogue, j'avais 8 ans. À 8 ans, je faisais partie de la chorale de la synagogue de l'école où j'étais. Il y avait une synagogue attenante à l'école où j'étais, à Jérusalem, à l'école Tarkemoni. Il y avait une synagogue avec une chorale, et j'étais l'alto solo de cette chorale. Elle avait une particularité, c'est que toute l'année, on chantait à deux voix, les enfants chantaient soprano et alto, et pour Rosh Hashanah et Kippour, c'était extraordinaire parce qu'on nous ajoutait des ténors et des basses. On avait les chœurs à quatre voix. C'était le moment sublime de la musique liturgique de la famille Rivlin à Jérusalem, qui jusqu'aujourd'hui, des airs magnifiques. C'est Rivlin qui a écrit ses Berichmei à l'ouverture de l'Arche le samedi. Etc., etc. De morceaux absolument sublimes qu'on chante encore aujourd'hui. Qu'on chante encore aujourd'hui. Alors, évidemment, à 8 ans, je commence à chanter, je commence à m'intéresser dans l'ensemble à la musique, à toute la musique. Et puis, je chante tellement, tellement, qu'en classe, quand j'arrive vers 12-13 ans, quand j'arrive au lycée, et on me colle un nom d'emprunt, on m'appelle Gilli. Pourquoi Gilli? Parce que Beniamino Gilli était un très grand chanteur italien. Et puis parce que mon prénom c'est Benjamin, donc lui aussi c'était Benjamin ou Benjamin. Et alors on a trouvé que comme je chantais tout le temps, il fallait me donner ce surnom de Benjamin ou Gilli. Non, Gilli tout seul, c'est resté comme ça. Et j'étais Gilli pendant des années. Pendant des années, mes copains du lycée m'appelaient Gilli. Alors moi personnellement, j'aimais l'opéra d'emblée parce que j'aimais la musique chantée. J'ai un amour très 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 particulier pour la musique chantée. Et la première fois de ma vie où j'étais à l'opéra, c'était un cadeau de bar mitzvah, j'avais 13 ans, et puis il y avait l'opéra en Israël à ce moment-là qui a donné Carmen de Bizet, que j'aimais déjà, que je connaissais déjà, que j'aimais énormément, et on m'a offert une place pour écouter Carmen. Ça s'est passé au cinéma Edison, qui le jeudi servait pour la musique. Le cinéma s'arrêtait jeudi pour faire de la musique, le concert symphonique et l'opéra. Et j'étais dans ce cinéma Edison à Jérusalem, à 13 ans après, un peu après 13 ans, pour voir Carmen, mais tenez-vous bien, c'était en hébreu. C'était en hébreu. Alors ce qui est extraordinaire, Je ne savais pas que j'allais être baryton après, je ne savais pas. Mais c'est l'air de baryton de Carmen Escamillo qui me plaisait le plus. J'adorais cet air-là. Et je me souviens encore par cœur du début de l'air du Toréador, évidemment. Ça s'est passé comme ça. Birkatem re'aylina ema, Toréador huach, huach le'ish sava. Rakoz yadeu, ometz libeu, em yu lo bet krav. Kikar gadol. J'arrête là parce que c'est extraordinaire. Je me souviens de l'hébreu de l'air du Toréador de Carmen. Premier opéra que j'ai vu dans ma vie. Quelle émotion! J'ai pas pu dormir après. J'ai raconté à mes amis et puis je leur chantais pendant les récréations à l'école. Je leur chantais ces Carmen sans arrêt tout le temps. Après, un autre événement très important, c'était à 19 ans, la première fois de ma vie que j'ai vu un film opéra, c'est-à-dire un opéra filmé au cinéma. C'était le Rigoletto de Verdi, avec rôle-titre Tito Gobbi, un des grands chanteurs italiens, Tito Gobbi. Je crois que je suis retourné 4 ou 5 fois au cinéma pour voir cet opéra, que j'aime beaucoup, Rigoletto, j'aime beaucoup. C'est pas parce que je trouve Othello le plus beau Verdi, c'est pas une raison pour ne pas aimer tous ces autres opéras. Hein. J'aime beaucoup Macbeth aussi, j'aime beaucoup Rigoletto aussi. J'aime la Traviata énormément. La Traviata d'ailleurs qui a donné un film opéra magnifique, extraordinaire. Et avec la Traviata, je sais pas si vous vous souvenez. Et puis après... Il m'est arrivé une chose extrêmement heureuse quand j'étais déjà à Paris. J'étais étudiant en médecine. Vous savez que j'étais violoniste. Je continuais à jouer du violon pendant que je faisais la médecine. Et là-dessus, en 1954, je faisais un peu de sport au centre américain, boulevard Raspail. Je vois une annonce cherchant musicien pour un montage de Didon et Aeneid de Purcell. Alors évidemment que je me suis présenté, on m'a fait une audition, et ça n'a pas tardé, on m'a nommé premier violon solo de l'opéra Didon et Aeneid, présenté au centre américain du boulevard Raspail. Souvenir absolument inoubliable, et je suis tombé amoureux de cet opéra, depuis ça n'a pas changé, ça fait presque 70 ans, j'aime toujours Didon et Aeneid. Je suis toujours bouleversé par cette histoire de Didon et Aeneid. Et chez Purcell, et chez Berlioz, n'oubliez pas qu'il y a le Troyen de Berlioz, où il y a l'histoire de Didon et Aeneid aussi, qui est magnifique. Alors là, il y a aussi un air absolument sublime que vous devez écouter, évidemment. Dès que vous terminez à écouter mon émission, vous allez vous ruer sur YouTube pour trouver Didon et Aeneid. De Purcell. Cette air, c'est la mort de Didon, évidemment. When I am led, in earth, let my love C'est un air, un des plus beaux airs d'opéra qu'on puisse imaginer que quelqu'un a créé. Extraordinaire. Bon, passons maintenant à un autre sujet. Je voudrais vous parler de Wagner. Jusqu'à l'âge de 45 ans, je n'écoutais pas Wagner parce qu'en Israël, on n'écoutait pas Wagner. Et après, je gardais ça en venant à Paris. C'était pour moi une sorte de masque. On n'écoute pas Wagner l'antisémite. Il y a d'autres compositeurs antisémites. Il y a par exemple Vincent Dendy, le compositeur français, qui était ouvertement antisémite, qui a écrit des œuvres antisémites. Mais c'est Wagner qui a vécu au XIXe siècle, qui n'a rien à voir avec les nazis. On n'écoutait pas. Et puis, quand je commençais à plonger dans la musique du XXe siècle, d'abord Mahler, ensuite Schoenberg, avec la musique de l'École de Vienne et la musique du XXe siècle, j'ai compris qu'il y a un chaînon qui me manquait dans mon éducation musicale, qu'entre la musique classique et romantique et post-romantique et la musique du XXe siècle, il y avait le chaînon Wagner, sans comprendre Wagner, sans connaître Wagner, c'était pas la peine de... On ne pouvait pas comprendre la musique du XXe siècle. Alors, j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait une erreur terrible d'associer Wagner antisémite avec le Wagner musicien, parce qu'il y avait un grand danger pour les gens que, comme Wagner était un génie absolu de la musique, on peut imaginer qu'il était aussi génial quand il était antisémite, ce qui était une énorme erreur. Il fallait séparer totalement, jeter de côté le côté antisémite de Wagner, ne pas s'intéresser à cela, et s'occuper de sa musique uniquement. Vous savez, si vous avez demain quelqu'un qui trouve un vaccin contre la Covid-19, et si vous apprenez que c'est un énorme antisémite, vous n'allez pas faire le vaccin ? Ça n'a rien à voir. Ça, Wagner, antisémite, laissons-le pourrir avec son antisémitisme. Il n'était pas seulement antisémite, il était un type horrible, voleur, adultère, un type dégueulasse, vraiment insupportable, infréquentable. Mais sa musique est la musique la plus géniale qu'on puisse imaginer. Il n'y a pas de musique sans Wagner, ça n'existe pas. Alors il fallait évidemment qu'à partir de 1975, je me souviens de la date, quand j'osais pour la première fois, je plongeais dans Wagner, et c'était un bonheur absolument incroyable qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrêtera jamais. Alors quand je voulais vous proposer mes opéras les plus aimés par le siècle. Alors je vais commencer par le XVIIe siècle. Mon opéra préféré du XVIIe siècle, c'est le couronnement de Poppée de Monteverdi. Voilà. Évidemment, je ne vous dis pas, dit Doyenné, évidemment. J'ai déjà dit. Ensuite, 18e siècle, mon opéra préféré du 18e siècle, c'est Don Giovanni de Mozart. Quand j'arrive au 19e, je vous l'avais déjà dit, il y a deux opéras. Il y a Otello de Verdi, qui est un de mes deux préférés. Et le deuxième, oui, c'est Wagner. C'est Wagner qui est Tristan et Isolde. Tristan et Isolde de Wagner, mon opéra préféré du 19e siècle. Et puis au 20e siècle, mon opéra préféré, sans hésiter. Je sais qu'il fut un temps où j'hésitais entre Péléas et Mélisande de Debussy et Wozzeck de Berg. Mais là, j'ai fait mon choix et c'est vraiment Wozzeck de Berg qui est mon opéra préféré du XXe siècle. Et je ne terminerai pas mon émission sans vous dire quel est mon opéra préféré de tous les opéras, depuis Daphné, de Jacopo Peri et jusqu'aujourd'hui. Et bien c'est encore Wagner, c'est l'opéra qui s'appelle la Valkyrie de Wagner, où il y a des dialogues chantés et une musique sublime, un dialogue extraordinaire. Surtout le dernier dialogue où l'opéra se termine par un dialogue entre un père et sa fille, un père qui adore sa fille, une fille qui adore son père, et ils sont obligés de se séparer. Le père punit sa fille, il est obligé de la punir, et il y a une séparation, il y a un dialogue chanté de séparation entre le père Wotan et la fille Brunhilde. Ça, c'est mon opéra numéro un, c'est celui que j'aime le plus. Aujourd'hui, enfin je peux le dire parce que j'ai compris le système avec Wagner. On a fait une grande erreur en Israël d'interdire Wagner parce que, comme je vous l'ai dit, le grand danger, c'est d'associer le génie musical de Wagner avec sa pensée. Mais sa pensée n'est pas géniale. La pensée de Wagner n'est pas géniale. Par contre, sa musique est tout à fait géniale. Voilà, je crois que je vous ai mis l'envie de plonger dans les opéras un peu. Vous pouvez choisir ce que je choisis moi, vous pouvez choisir autre chose, c'est votre choix, faites-le, et puis régalez-vous. Il y a heureusement aujourd'hui, vous avez l'ordinateur, sur l'ordinateur vous avez YouTube, sur YouTube vous trouvez pratiquement tous les opéras possibles et imaginables dans diverses versions, et vous pouvez vous offrir des moments merveilleux, soit en regardant l'image, soit parfois en écoutant sans l'image, uniquement pour la musique. Alors, prochaine émission Musique au présent, le dernier vendredi de novembre. Et jusqu'à là, excellente écoute musicale et Shabbat Shalom pour le Shabbat qui commence dans quelques heures.